Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Devant l'entrée du parc, il y a encore des gens qui vont, viennent, des calèches, des cochers qui parlent. Allons derrière le château, nous serons mieux. Et ils y vont. Il n'y a plus de monde. Ils vont marcher dans une petite allée, tranquille. Il y a des arbres qui les entourent. Il lui prend la main et lui demande « Vous êtes heureuse, Hilde ?» Et lui dit « Autant que je peux. » Et lui dit « C'est peu. » Et lui dit « J'ai été très malade. » Oui, bien sûr, mais vous connaissez mes sentiments pour vous. Enfin, vous les devinez? Elle lui dit gênée. Je le sais. Il lui dit émis. Cela fait déjà quelque temps que nous nous voyons. Nous nous voyons très souvent, je crois, que vous commencez à me connaître. Il est très ému, elle est gênée. Il est ému parce qu'il a des sentiments pour elle. Elle est gênée parce qu'elle n'a pas des sentiments pour lui. Mais il croit que sa gêne est due à sa timidité. Il a peur de ne pas avoir su s'extérioriser. ses sentiments. Puis la peur, qu'elle ait peur d'extérioriser ses sentiments pour lui. Il se trompe. Il demande, que pensez-vous de moi? Elle ne sait quoi dire. Il se dit, elle est timide. Elle lui dit, surtout gentil, sensible, joli garçon. Il dit heureux, merci. Vous connaissez mes sentiments pour moi? Alors, je ne vous énumérerai pas vos qualités. Vous en avez tant. Elle lui dit, n'exagérez pas, j'ai beaucoup de défauts. Il lui dit, j'aime aussi vos défauts. Il s'arrête de marcher, lui fait face et lui demande, voulez-vous devenir ma femme? Cette demande lui coupe le souffle. Elle ne sait quoi répondre. Et lui dit, si vous l'acceptez, vous serez la plus heureuse des femmes. Je vous le jure. Et moi, le plus heureux des hommes. Je suis sérieux. Et je crois que je pourrais être un homme, un très bon époux. Je vous aime. Si vous saviez que je vous aime. Mais vous, elle a l'air si triste. Elle lui dit, sans y penser, vous, elle a dit, comme ça, elle ne sait plus. Elle se met à pleurer. Il l'embrasse sur la joue et lui dit, c'est l'émotion, ma chérie. Moi aussi je pleure. Il pleure. Ils pleurent tous deux un moment enlacé. Lui aussi est très ému. Ma chérie. C'est le plus beau, le plus bel instant de ma vie. Elle tremble de tous ses membres. Pourquoi a-t-il dit oui? Pourquoi? Il lui dit, il faut retourner voir nos invités. Elle panique et lui dit, on ne dirait rien. Il se dit, la timidité, pauvre petite fleur, il lui dit, nous garderons nos aveux secrets. Le temps que vous le voudrez. Elle lui dit, je vous remercie. Malgré elle, elle est. Elle apprécie sa délicatesse et il retourne à la soirée. Personne ne s'est aperçu de leur disparition, sauf Franck. Il voit Georges qui semble heureux. Il tient à la main sa sœur. Il se dit que la chose a dû être faite et que peut-être qu'ils vont déclarer leur fiançailles. Il va vers eux. Il leur demande, vous allez bien? Et je lui dis, oui. J'ai l'impression que c'est que vous semblez bien vous entendre tous les deux. Georges Rouget lui dit, oui, je fais tout pour être agréable à votre soeur qui est délicieuse. Il la regarde. Elle dit pour le remercier de toutes ces gentillesses. Et puis, malgré quel est fait, qu'elle est dit d'une façon inconsciente, qu'elle le dise d'une façon inconsciente, elle le dit tout de même. Elle dit, oui, Georges est un cavalier charmant et qui s'acquiesce à tous mes désirs. Quand tu dis, je pense qu'il sera plus que ton cavalier. Là, je lui dis, c'est pas l'endroit pour parler de cela. Je suis le protecteur de votre sœur. Quand tu dis, bien, il est heureux. Embrasse Hilde. Et tout pas, et malgré tout, essaie de paraître heureuse. Là, je dis, comme elle est timide, elle ne veut pas extérioriser ses sentiments. Mais une voix lui dit, pourtant elle a eu la faiblesse de fuguer, paraît-il, de vivre avec un jeune homme. À moins que cette histoire soit fausse, car si elle était vraie, elle ne serait pas si timide en ce moment. Les gens sont de telles mauvaises langues. Eh bien, au lieu de rester ainsi, dansez donc. Ils sourient et vont danser. Je lui dis, votre frère a pris que nous étions déclarés. Ce que je veux, c'est que nous restions discrets. Je ne tiens pas à ce qu'on le sache. Je suis encore faible et je ne pourrais pas tout supporter toutes ces personnes. Ils vont parler de moi pour me juger, me traiter d'arriviste, avoir des médisances sur moi, sur nous, par jalousie. Et lui, ne nous occupons pas de ceci. Ceux qui médisent ne sont que des jaloux. Mais médiser sur quoi? Elle lui dit, que tu es riche, et moi je n'ai rien. Il lui dit, je comprends maintenant, c'est ça qui vous ennuie. Mais ne vous faites pas du souci pour ça. Une femme ne doit pas s'occuper de ces choses, c'est à l'homme de le faire. Que vous veniez avec des coffres bien garnis ou rien, cela ne vous regarde pas. C'est mal élevé pour une jeune fille de s'occuper de ça. Oubliez tout ça et pensez à être heureuse. Laissez-vous aller à être heureuse. Mon jeune petit corps, si j'avais su que c'était ça qui te gênait dans tes sentiments pour moi, je t'aurais dit dès le début que pour moi, tu es le plus beau trésor du monde. Tu es toi, et tu es unique, belle, jeune et douce. Aucun or ne peut remplacer ça. Il embrasse sur le front et lui dit, n'en parlons plus. Et se dit que c'est un homme de grande noblesse, de cœur. Puis le bal s'est terminé vers les 5 heures du matin. On a beaucoup dansé, ri, mangé, bu. Il n'y a que Georges et Hilde qui sont restés seuls. Franck a fait la connaissance d'une belle rousse. Sensuelle, qui aime les jeunes gens. Elle doit avoir dans les 30 ans et encore bien conservée. C'est ses derniers beaux jours. Avant le déclin, elle veut en profiter. Parce qu'elle se dit que l'année prochaine, ce sera déjà plus la même chose. Elle prendra du poids, comme sa mère, ou se séchera, comme son père. Les cheveux blancs, les lèvres tombantes. La vie baissera. Les dents qui tomberont, etc. Alors, elle est allée jouer avec Franck dans un coin du parc. Pendant une heure, elle a fait tomber à terre, s'est couchée sur lui, la couvert de baisers et déshabillée. Il était un peu ivre, mais ça l'a beaucoup amusé. Elle, elle en a bien profité. Malgré son ivresse, c'était un très bel étalon en pleine forme. Après avoir roulé dans l'herbe pendant une heure, épuisé, ils sont retournés à la fête comme si de rien n'était. Le pauvre Franck a été dépusté comme ça. Il regardera un souvenir confus, mais fier de l'avoir enfin fait. Pour ce qui est de la dame, il oubliera facilement. Dans ses souvenirs, ce sera plus qu'une personne au visage imprécis. Le frère et la sœur disent au revoir à Georges. Ils partent les derniers parce que ce sont les amis de l'hôte. Franck dit à Hilde et à Georges, vous pouvez vous embrasser pour vous dire au revoir. Il n'y a personne pour vous voir. Ils sont tous les deux rouges et se donnent un petit baiser sage sur le front. Franck lui dit et dit, si c'est ça, que font les mariés? Georges, pour détendre un peu d'atmosphère, car il voit qu'il est un peu gêné, dit à Franck. Qu'est-ce que tu en sais? Franck lui dit, oh, autant que toi et peut-être plus. Allez, bonne nuit. Et il prend par la main, les bras et les font sortir. Ils vont prendre le cabriolet. C'est Franck qui va conduire, il n'a pas de cocher. Hilde s'assoit à côté de lui et le cheval se met en route. Au fur et à mesure qu'il roule, le jour se lève tout doucement. Il fait frais, mais l'on sent que ça va être une belle journée. Franck demande à sa sœur, alors, t'as demandé en mariage? Et lui dit sans le voir, oui. Il lui dit, c'est bien. Elle lui dit, j'ai peur, je sais pas, comment sera mon avenir? Je ne sais pas comment sera mon avenir. Il lui dit, ne fais pas de soucis. L'avenir pour toi, c'est d'être une femme et d'être heureuse. Tu verras, tu seras heureuse. Hein? Et tu l'as été tout à l'heure. Elle lui dit, je ne sais plus. Mais elle se met à pleurer. Et dit, j'ai l'impression de Luc. Il lui dit, quoi? Tu penses encore à Luc? Il est disparu et tu ne le reverras plus. Plus jamais. Il dit. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Elle lui dit. Tu es folle. Elle lui dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle veut tout oublier et se laisser guider par eux. Georges est heureux. Bientôt, il va pouvoir annoncer ses fiançailles, parce qu'elle lui a permis. Mais il faut encore attendre quelque temps pour qu'elle se remette. En attendant, il décide de préparer sa nouvelle vie. Mais préparer ses chambres, ses meubles. Change la salle à manger, le salon. Puis, il décide d'acheter un petit hôtel particulier à Paris. Parce que lorsqu'ils iront à Paris, ils n'auront pas besoin d'aller à l'hôtel. Il va à Paris et achète dans le quartier du Marais un hôtel particulier. Un vrai, véritable petit bijou qui appartenait à la Pompadour. Il le fait rénover et achète des meubles Louis XV, bien sûr. Il achète aussi des calèches avec de beaux chevaux pur sang et se fait faire une belle garde-robe. Il va même voir un bijoutier place des Vosges pour la bague de fiançailles pour sa femme, pour sa future femme. Et une belle broche. Le bijoutier lui présente une bague avec un magnifique diamant noir qui d'après lui a appartenu à la reine Marie-Antoinette et elle l'a gardé jusqu'à sa mort, de ses fiançailles à sa mort. Le fiancé, le bijoutier, un grand homme sec à cheveux gris, costume gris, dit à Georges. Diamant pouvait dire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait et entendu, on en saurait des choses. Et votre fiancé va succéder à la reine. Personne ne l'a eu depuis. Georges lui dit, j'achète. Ça vaut une petite fortune. Il a acheté le diamant. Avec le diamant, un collier en diamant aussi. Il est tout fier de ses achats. Tout ce qu'il a acheté, même ses vêtements, sont pour Hilde. Il cache tout ça à Hilde pour ne pas l'effaroucher. Il va la voir et reste l'après-midi avec elle. Il reste discret sur son amour. Pour ne pas l'effaroucher aussi. Il parle de sa vie, de ses goûts, il demande des siens. Elle lui dit, moi je ne connais que la campagne. J'aime les chevaux, les oiseaux. Il lui dit, je pourrais connaître Paris et ses fêtes. Vous verrez comme c'est beau. C'est un tourbillon. Tout le monde va à Paris. Des bals populaires, des guinguettes aux Tuileries. Vous irez aussi au théâtre, à l'opéra, et vous serez la plus belle de toutes. Elle lui dit, moi, la plus belle? Il lui dit, oui. Elle lui dit, l'affection que vous avez pour moi vous aveugle. Il lui embrasse les doigts et lui dit, vous êtes une fée. Vous sentez-vous mieux? Et lui dit, je prends des forces. Et lui dit, je suis très heureux. Peut-être que bientôt. Elle lui dit, oui, bientôt. Alors, il attend. Mais quelque chose le chiffonne. Il veut savoir tout de même. Alors, lorsque Franck est au château et qu'il y est, il lui dit, j'aimerais vous parler, Franck. Franck lui dit, je vous écoute. Je lui dis, c'est un peu délicat. Allez-y, n'hésitez pas. Je lui dis, c'est un sujet un peu compliqué. C'est au sujet, disons, de l'aventure qui a eu votre sort avec ce jeune homme. Moi-même, je m'en moque, mais j'aimerais savoir. Ça ne change rien à mes projets, je vous le jure. Franck est gêné, ne peut nier que sa sœur soit partie avec Luc. Il lui dit, ce n'est rien de bien grave. Ma sœur s'est prise d'une tendre amitié pour un jeune vagabond que j'ai hébergé chez moi quelque temps. Le garçon était touchant et bien de sa personne et s'est mis à l'apprécier. Et lorsqu'il a décidé de nous quitter quelque temps, parce que la vie aventureuse lui manquait, il avait vécu toujours de cette façon. Alors cette vie que nous menions était un peu trop monotone pour lui, donc il a décidé de nous quitter. Ma soeur s'est prise au goût de partir, elle aussi, de voir du pays. Autre chose que ce qu'elle connaissait depuis son enfance. Ça lui pesait aussi, cette vie monotone qu'elle connaissait. Alors, elle a décidé, c'est de partir avec le jeune homme. Mais vous pensez bien que j'ai tout fait pour lui en dissuader. Mais vous connaissez la personne fougueuse et rebelle. Elle n'a pas voulu m'écouter. Alors, de guerre lasse, je l'ai laissé partir en me disant que ça lui fera une leçon de vie. Bien entendu, j'ai demandé au jeune homme de la protéger, de bien faire attention à elle et de me la ramener si les choses n'allaient pas. Elle est partie, a vécu une vie vagabonde sur les routes. Ça lui a plu, l'ivresse de la liberté. Et au fur et à mesure du temps, les choses se sont gâtées. Le manque d'argent, de nourriture, le froid, et aussi la monotonie, oui, bien la monotonie du voyage. Toujours le même genre de paysage, toujours les recherches à manger, à trouver pour dormir. Cela lance, fatigue et affaiblit le corps. Elle est tombée malade, a pris froid. En plus, avec un corps affaibli à cause de la faim, sa maladie s'est vite dégradée. Fièvre, délire. Le voyage devenait un cauchemar. Elle ne pouvait plus avancer. Ils ont été obligés de s'arrêter. Alors, Le jeune homme affolé a décidé de m'appeler pour que je les aide. Je suis allé vers eux, pris ma sœur fiévreuse, inconsciente. Le jeune homme voulait continuer sa route. Voilà la chose, toute simple. Jean, je lui demande, et êtes-vous certain qu'elle n'ait pas eu un penchant pour ce jeune homme et que qu'il ne se soit rien passé d'irréversible? Franck lui dit, je peux vous assurer et même vous jurer que ma sœur n'a eu aucun aucune intimité réelle avec ce jeune homme. Georges lui dit, je suis très heureux, pas pour moi, mais pour elle. Vous savez comme les gens sont méchants. Oui, je le sais. Et il continue à faire sa cour. Il a accepté à dire oui. Je ne sais pas pourquoi elle a dit oui, mais elle l'a dit. Mais le soir, lorsqu'elle est seule dans sa chambre, elle pense constamment à Luc et rêve qu'il vienne la chercher. Si elle le voyait venir, sur son cheval, elle courrait à lui et laisserait tout. Elle se sent mieux. Son frère lui dit qu'il faut qu'elle accepte que Georges officialise leur fiançailles. De toute façon, vous êtes fiancés. Alors, il faut que ce soit officiel. Le notaire écrit régulièrement à Franck pour savoir où en sont les affaires. Franck lui dit que tout va pour le mieux, que Georges est très amoureux, qu'il a déjà acheté la bague de fiançailles, mais qu'il attend un peu qu'Hilde se rétablisse. Le notaire lui dit de presser la chose, parce que les créanciers s'impatientent et qu'une personne s'est présentée au château. Ils veulent démolir pour installer une maison de campagne moderne. Luc ne sait rien d'où fout ça. Il est isolé dans les marais, pas très loin de chez eux, mais caché dans la nature sauvage. Il a trouvé une cabane, sans doute une vieille cabane de pêcheurs en pierre et bois, et la moitié en ruine. Les herbes sauvages et les racines d'arbres l'envahissent. Il y a de la terre sur le sol. Juste une pièce, une fenêtre, avec des volets en bois, rien de plus. Les murs sont à nu, les poutres du toit sont apparentes. Il y avait une table de bois branlante, une chaise, un coffre et un lit de camp. On ne peut pas faire de lit dedans. Luc, pour faire le feu, il le fait devant la maison. Pour avoir chaud à l'intérieur, il se couvre de couvertures. C'est des couvertures qu'il a eues parce qu'il a travaillé chez un paysan. Sa femme venait de mourir. Alors il lui a donné parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Luc vit de la pêche qu'il fait avec une branche d'arbre, du fil et d'un crochet. Il fait des pièges aussi pour prendre quelques oiseaux et rongeurs. Il a décidé de vivre ainsi en attendant. Après, il ira plus loin. Son but, c'est de trouver ses origines, prouver à Jean qu'il n'est pas son frère. Il aime toujours, malgré qu'il ait de l'affection pour Hilde. De toute façon, on peut aimer deux personnes en même temps. Il y a peut-être une que l'on aime plus que l'autre. Mais des fois, on peut les aimer toutes les deux de la même façon, autant toutes les deux. Luc, lui, pour le moment, aime Hilde autant que Jeanne. Hilde est plus jeune, plus pure que Jeanne. Mais Jeanne, c'est la passion, la fougue. La décidée, c'est de rester l'été ici, dans le marais, puis il repartira. Il ne voit personne. Le marais est un endroit que l'on évite. Les gens le craignent. Ils pensent qu'il y a des esprits, de mauvais génies. Et puis on peut prendre des fluides qui vous donnent des fièvres et qui peuvent être mortelles. Et puis il y a des animaux monstrueux, sauvages. Or, des âges, comme des serpents qui deviennent vite des démons et des poissons qui deviennent des bêtes monstrueuses. Il y a aussi des esprits, des gens, des sorciers, le diable, et puis on s'y perd. Bien sûr que l'on s'y perd dans les marais. Parce que personne n'y va, on ne le connaît pas, donc on s'y perd. Et le marais, comme tous les marais, les eaux suintent, apportent des maladies. Il y a des microbes, des bactéries. Mais de ça, les gens le savent. Ils le savent et croient que c'est du fluide. Les fluides du marais qui rend malade. L'eau est mauvaise, qu'ils disent. Sans le savoir, c'est vrai. Mais il est mauvais parce que l'eau stagne, devient sale et permet de se développer des bactéries, des microbes qui apportent des fièvres et des maladies. En fait, les gens ont raison de ne pas s'approcher des marais. Ça les protège des maladies. Alors, Luc, lui aussi, risque de tomber malade. Oui, il le risque. Mais, en vivant longtemps, en ayant vécu dehors, il est vacciné, il s'est vacciné durci. Il a vécu plusieurs mois dans le marais, ça l'a vacciné et durci. Et avant le marais, il a vagabondé. Mais il risque malgré tout, surtout s'il boit de l'eau qu'il trouve. Il boit de l'eau de pluie, de préférence. Mais lorsqu'il n'y a pas de pluie, il boit ce qu'il trouve et ne sait pas qu'il faut faire bouillir l'eau. Luc est jeune et en bonne santé, il a l'habitude de la vie en plein air. Au bout d'un moment, le corps s'habitue et se vaccine. Oui, il se vaccine. Luc aussi. La nuit, pense à Hilde, Il se demande ce qu'elle est devenue. Il se dit qu'elle est peut-être mariée. Ou qu'elle est restée chez son frère. Oui, c'est mieux si elle est chez son frère. Là, au moins, elle peut guérir. Un après-midi, Franck, en se promenant avec Georges dans le parc, lui dit: il serait peut-être temps c'est que vous officialisez vos fiançailles. Vous venez souvent et cela risque de faire jaser. Nous sommes isolés, mais cela n'empêche pas que l'on nous espionne. C'est pour toi que je le dis, autant que pour ma sœur. Je lui dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais, si tu le permets, le demander à ta sœur. Franck lui dit, je t'en remercie. Et dès qu'il voit une Hilde après une course à cheval, ils marchent à pied tous les deux, l'un côté de l'autre. Georges lui demande, permettez-vous que j'officialise nos fiançailles? Elle est très triste et sait que si elle dit oui, elle dira adieu à Luc. Mais elle est allée trop loin, trop en avant avec Georges. Il est bon. Et puis les créanciers frappent à la porte et lui dit, oui, je veux bien. Heureux, et lui dit, merci. La prend par la main et l'embrasse sur la joue. Il dit, j'ai organisé une fête pour annoncer cette nouvelle. Elle essaye un peu de sourire, mais elle n'y arrive pas. Il se dit, elle est très timide. Le lendemain, il le dit à Franck, ils vont tous les deux discuter dans le bureau de Franck. Après s'être assis, Franck lui dit, je vais être franc avec vous. Nous sommes ruinés. J'ai pas grand chose à vous donner. Enfin, à donner à ma sœur. À part quelques terrains et de vieux bijoux de famille, Georges lui dit, cela n'a aucune importance. Même si votre sœur n'avait rien, ne venait sans rien, ça ne changerait rien. Franck lui dit, je vous remercie. Vous êtes un homme de cœur, je lui dis. Tout simplement un homme qui aime votre sœur. Franck lui dit. Alors, nous irons voir le notaire pour les fiançailles. Peut-être que les fiançailles sont annoncées. Nous irons voir tous les deux nos notaires. Oui, très bien. Georges est aveuglé par l'amour. Il ne voit pas que c'est presque une machination qui s'est tramée pour sa fortune. Franck prévient son notaire que la chose s'accélère et qui viendra très prochainement le voir pour le contrat de mariage. Franck est très content. Ouf! Et après, il se trouvera bien une riche héritière. Ce sera facile, plus de dettes. Et puis, il fera un mari, un bon parti. Il choisira une jeune fille dont le père est avocat. Oh, puis n'importe quoi, du moment qu'elle est riche. L'intimité ne le touche pas vraiment. Et puis, c'est peu de choses le plaisir physique. Il sait qu'il peut le trouver n'importe où. Ce n'est pas la compagne ou le compagnon qui compte, mais ce que l'on ressent. Un homme de la campagne sait que la chose n'est que mécanique et que l'on peut même avoir du plaisir seul. Georges prépare sa soirée. Il a prévenu ses gens. Envoyer des invitations. Pour une soirée exceptionnelle, orchestre, buffet, des tas de fleurs, beaucoup de fleurs. Il demande à Hilde de se faire une robe blanche pour l'occasion. Il lui donne l'argent. Hilde se laisse faire et ne dit rien. Georges lui donnera la bague durant la soirée et le collier de diamants dans l'intimité. Il a même invité le vieux curé pour bénir les fiançailles. Il y aura du monde pour la soirée, même des gens de Paris. Tout le monde veut y aller parce que l'on dit que c'est des fiançailles de Georges. On est curieux de voir la fiancée pour la critiquer parce qu'on aime dire du mal. C'est tout de même plus agréable de dire du mal que dire des bonnes choses. Franck aussi se prépare. Il se fait faire un bel habit noir. Il se dit qu'il ne faut pas trop y penser. De toute façon, les invitations ont été envoyées. Georges a demandé à Franck pour la soirée s'il ne voulait pas inviter des gens. Franck lui dit qu'il ne connaît personne. Nous vivons, depuis la mort de nos parents, seuls. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.